Gloire au Seigneur. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de l'Ancien Testament. Vous connaissez l'évangile de l'Ancien Testament ? Ésaïe, exactement. C'est le livre du prophète Ésaïe. Qui a été appelé ainsi, quoi, parce que bien qu'ayant été écrit au 8e siècle avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, continuellement, vous avez l'évangile qui ressort de ce livre. Hein, c'est tout à fait remarquable, tout à fait impressionnant. Et en même temps, c'est un poète lyrique extraordinaire. Certains l'ont appelé le Victor Hugo de l'époque. Hein. Et nous avons un beau texte là, un texte très encourageant, très réconfortant, très, très attirant vers Jésus-Christ, qui commence dans Ésaïe 41 au verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Et voilà ce qui est marqué. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » Amen. Nous arrêterons là. Et vous avez pu voir plusieurs choses, probablement dans ce passage déjà, que trois fois il y est dit « Ne crains rien », verset 10, verset 13, verset 14. Trois fois aussi il est dit « Je viens à ton secours hein, », dans les mêmes versets. Et trois fois il s'appelle « Ton Dieu, ton sauveur hein. ». Donc, elle insiste bien sur le fait donc, qu'il s'agit d'un Dieu personnel. Donc, considérons ces choses tour à tour et parlons-en un petit peu suivant ce que la parole de Dieu nous donne à ce sujet. D'abord, il est dit « Ne crains rien ». Et je crois que c'est une parole qui vient tout à fait à propos dans notre époque, époque d'angoisse, d'incertitude de toutes sortes, de dépression quant au lendemain, de crainte continuelle. Les hommes sont de plus en plus prisonniers de la crainte. Hein. Donc, on raconte qu'une entreprise de ferrailleurs de Colombie-Britannique donc, était en train de démanteler l'ancienne prison de Fort Alcan, de toutes les ferrailles, tous les fils électriques, et la plomberie qui pouvait encore s'y trouver. Alors ils ont fait une découverte tout à fait surprenante. C'est que les puits sans verrou étaient fixés sur les lourdes portes, il y avait des barreaux de plusieurs centimètres d'épaisseur aux fenêtres, mais les murs étaient faits d'un mélange d'argile et de papier peint de telle façon à ressembler à du fer. Hein ? Et un bon coup d'épaule d'un homme un peu costaud, un peu persévérant, aurait pu faire éclater certains de ces murs sans trop de difficultés, mais personne ne l'a jamais essayé, parce que personne ne l'a jamais cru possible. Voilà, personne n'a jamais cru possible. Vous savez, beaucoup de gens sont prisonniers de leur crainte. Et prisonniers, ils pensent qu'ils ne vont pas arriver à s'en sortir. Hein. Vous avez la crainte du lendemain, vous avez la crainte de l'avenir. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Vous avez des quantités de jeunes aujourd'hui, ben ils se disent il n'y a pas d'avenir avec ce qui arrive pour la planète. Hein. Donc, ils ne veulent pas avoir d'enfants, ils ne veulent pas faire des projets à cause de ça, hein, parce qu'ils se disent mais il n'y a pas d'avenir. L'éco-anxiété, vous voyez, c'est une nouvelle sorte d'angoisse qui apparaît. C'est ceux qui ont la crainte des gens, ceux qui ont la crainte des opinions, ceux qui ont la crainte d'être dans le besoin, la crainte de la maladie, la crainte de la mort. Des angoisses sans raison apparente même. Vous savez, bien des gens ont eu des coups durs où ils ont vécu dans des difficultés. Ça fait qu'ils ont dans une crainte continuelle. Moi, je comprends ça. Vous savez, il y a un moment, ça fait déjà longtemps, il nous est arrivé trois fois de suite qu'on nous rentre dedans dans notre voiture par derrière. Hein. Une fois, on était arrêté à un feu. Voilà, puis on attendait que le feu passe au vert. Il y a un gars qui est arrivé à fond. Il nous a rentré dedans par derrière, il nous a envoyé, voilà, c'était la première fois. Après une deuxième fois, on attendait aussi, on était à l'arrêt, on était sur notre voie, mais on attendait pour traverser la route, donc on a mis le clignot, tout, et puis derrière nous, il y avait un arrêt de bus, et le bus démarre à l'arrêt de bus, il démarre de l'arrêt de bus, et puis il regarde dans son rétro, et il ne nous voit pas devant. Poum, allez, il nous envoie. Et puis un peu plus tard, on était sur la route, un dimanche après-midi, et puis voilà que devant nous, la bagnole pile, et puis derrière nous, le gars qui était derrière nous, il ne regardait pas, boum, il nous a retrait dedans. Alors après, vous savez ce qui se passe ? C'est que vous êtes toujours en train de regarder dans votre rétro. Vous arrêtez à un endroit, vous dites, il ne va pas nous rentrer dedans, celui-là, celui qui arrive derrière, là. Hein, c'est presque instinctif, hein, ça arrive. Hein. Donc, c'est vrai qu'on peut comprendre. On peut comprendre. Bon, ça s'est calmé maintenant, Dieu merci. Mais quand même. Hein. Vous savez, beaucoup de gens sont comme ce voyageur, donc, que les voleurs avaient arrêté sur le chemin. Donc, il lui avait pris tout ce qu'il avait, et puis alors il avait proféré contre lui de terribles menaces, il l'avait brutalisé, et puis il l'avait emmené dans une forêt profonde, il l'avait fait marcher dans les ténèbres, et puis après ils avaient attaché une corde à un arbre, et il a dit, tu vois, là il y a un grand précipice, alors on te donne le bout de la corde et on te fait descendre, là, t'as intérêt à descendre, sinon on te tue tout de suite. Hein, et puis il y a un grand précipice, alors accroche-toi bien au bout de ta corde aussi longtemps que tu peux t'accrocher. Alors, il a fait descendre comme ça, et puis il s'accrochait à cette corde, il s'est accroché le plus possible, et puis voilà, le vide en dessous, un grand abîme, quelle angoisse dans son cœur, donc le vide sous ses pieds, et puis c'est vrai, quelle terreur et quels efforts, et longtemps il est resté agrippé à la corde, et puis les forces lui manquaient, et le cœur défaillait, il n'en pouvait plus, et puis son emprise se relâche, il pense que c'est la fin, c'est la chute, et il tombe de 50 cm. Et il tombe de 50 cm. C'est simplement une ruse des brigands pour leur donner le temps de s'enfuir. Ah voilà. Hein, donc, et combien de gens sont dans la crainte, c'est vrai, à cause des coups qu'ils ont reçus dans la vie. Et c'est pour ça que Jésus s'adresse à eux et s'adresse à chacun en disant par trois fois, ne crains pas. Amen, ne crains pas. Vous pouvez vous confier en Jésus parce que lui, il est fidèle. Vous pouvez lui dire votre problème, parce qu'il les comprend mieux que n'importe qui, mieux que quiconque. Et non seulement cela, mais c'est lui qui a la solution pour les problèmes. Vous pouvez vous appuyer sur lui parce qu'il ne rompra pas et il ne vous manquera pas au moment du danger. Vous pouvez compter sur lui dans la difficulté. Il est le Tout-Puissant. Rien n'est au-delà de sa portée. Amen. Là encore, combien sont semblables à cet homme au Canada qui devait un jour traverser une rivière gelée. Une rivière glacée, il faisait très froid. Il n'avait pas confiance dans la parole des habitants qui étaient là, dans les environs, qui disaient, mais nous, il n'y a pas de problème, on traverse régulièrement sur la glace solide. Et puis lui, il n'avait pas confiance. Et il craignait de traverser, mais il fallait qu'il le fasse, il était obligé de le faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, finalement, il a commencé à traverser en rampant. Était là, il rampait sur la glace. Il dit, quand on rampe, ben, il y a moins de risques que la glace casse sous nos pieds, puisque le poids est mieux réparti. Mais alors, il avait rampé comme ça, péniblement, jusqu'au milieu du fleuve gelé. Puis là, il est surpris par un grand bruit qui arrive par derrière. À distance, il retourne, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un attelage de chevaux de trait, avec une espèce de lourde voiture qui est chargée de barres de fer, là, avec, et puis le conducteur qui traverse, qui passe à côté de lui, qui le regarde d'un air bizarre, comme ça, que c'est dit. Alors, pas le moindre signe de fêlure dans la glace, hein, évidemment. Et puis l'autre, il a dit, il se sentit vraiment bête, hein, à ce moment-là, on peut comprendre. Hein. Mais combien souvent c'est comme ça, hein, pour les gens? Est-ce que la parole de Dieu tiendra, mes amis? Est-ce que la glace a tenu? Oui. Est-ce que la parole de Dieu tiendra? La parole de Dieu tiendra. Hein. Certains craignent de faire confiance à la parole de Dieu. Et pourtant, ils entendent des témoignages à ce sujet. Confiez-vous dans la parole de Dieu. Ne crains pas, dit le Seigneur. Accueille-le dans ton cœur, accueille-le dans ta vie. Il te soutiendra. Il te fortifiera. Béni soit son nom. Amen. Amen. Remarquez que trois fois dans le passage, il est dit aussi, « Je viens à ton secours. » Je viens à ton secours. Et le secours de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse et la plus complète qui soit. Que ce soit pour nos maladies, quelles qu'elles soient, que ce soit pour réparer aussi, ben oui, les fautes du passé, parce que, ben oui, notre passé est bien souvent rempli de choses qui nous ont cabossé la vie, comme on dit, hein. pour nous laver de nos péchés aussi. Donc, il vient à notre secours pour nous délivrer aussi, nous délivrer des passions mauvaises, pour réparer les cœurs brisés, pour consoler, pour encourager, alléluia, et pour donner une espérance nouvelle. Et que dire encore ? Et que tant d'autres choses pour lesquelles il vient à notre secours. Et si tu te tournes vers lui, si tu cries à lui, eh bien, tu verras que c'est en lui qu'est la vie. C'est lui qui donne sa vie, hein. On raconte aussi l'histoire de ce qui est arrivé à John Ruskin, qui était un grand peintre anglais. Et puis là, il y a un de ses amis qui est venu un jour, c'était au 19e siècle, et il est venu le voir avec un mouchoir en toile fine. À l'époque, c'était quelque chose qui valait, qui avait une valeur, qui avait un prix. Donc, et puis voilà que le problème, c'est que quelqu'un avait fait une tache d'encre sur ce mouchoir-là. Et puis le propriétaire dit, on ne peut plus rien faire maintenant, on ne peut plus rien faire avec ça. Il est absolument sans valeur. Hein. Il se désolait comme ça. Ruskin n'a rien dit, et puis il a dit, tu peux me le donner, s'il te plaît, je te le rendrai. Et puis donc, il l'a pris, il l'a emporté avec lui, et au bout d'un certain temps, il l'a renvoyé, et à la grande surprise de son ami, qui n'a pas cru ses yeux, eh bien, en usant de tout son art, Ruskin avait fait un dessin à l'encre de Chine, en utilisant l'affreuse tache comme centre de son dessin. Il représentait une chasse d'eau, c'était un paysage de chasse, etc. Donc, et le résultat était extraordinaire. Vous savez, une vie tachée, ce n'est pas nécessairement une vie gâchée. C'est ça qu'il faut pouvoir se dire aussi avec le Seigneur. Lorsqu'on confie notre vie au Seigneur, qu'on lui en donne la direction, le Seigneur c'est un artiste pour réparer les vies, alléluia, et pour pouvoir les utiliser et pour pouvoir vraiment faire son œuvre. On a besoin d'être délivré. Vous savez, quelqu'un disait un jour, un spécialiste disait un jour, plus de la moitié des gens qui se trouvent dans les hôpitaux psychiatriques ont un problème de culpabilité. C'est-à-dire que, voilà, c'est parce que, bon, il ne limitait pas ça qu'à ce problème-là, mais il disait quand même que c'était vraiment quelque chose de très important. Hein. Et c'est vrai, parce que, pourquoi ? Bien parce qu'il y a eu le passé, il y a eu des choses qui sont là, hein, et des choses qui pèsent sur la conscience des gens, de façon plus ou moins consciente peut-être, mais en tout cas qui pèsent quand même sur eux. Hein. C'est comme cet écrivain donc, qui marchait dans une île du Pacifique, dans un lieu qui est appelé la côte de l'homme mort, bon c'est ça. Donc voilà, puis en regardant en arrière, il avait marché sur le sable là, sur la plage, et il a remarqué que son chemin n'était pas droit. Il a remarqué que son chemin était tortueux. Pourtant, il n'avait pas eu l'intention de. Il avait l'impression qu'il marchait droit. Hein. Mais non, il n'avait pas fait. Et quelque part, c'est devenu une parabole pour lui. Hein. C'est-à-dire, il s'est dit, voilà ma vie. Voilà ma vie, hein, avec mes empreintes de pas qui sont tordues. Et puis voilà, il est resté là-dessus ce soir-là, puis il s'est endormi, plus ou moins découragé. Et quand il s'est réveillé quelques heures plus tard, eh bien, il n'a plus vu aucune trace sur le sable. Pourquoi ? Eh bien, parce que la marée était montée, la marée était redescendue, elle était repartie. Et donc, il n'y avait plus de traces des empreintes tordues. Et il s'est dit en lui-même, mais voilà, quel rappel de ce que Dieu a fait pour moi en Jésus-Christ. C'est vrai. Hein. Jésus dit en effet, je viens à ton secours. Hein. Et il veut agir dans nos vies, et à condition bien sûr que nous lui abandonnions cette existence et que nous le laissions diriger. Vous savez ce que Jésus dit, hein, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 11, au verset 29, c'est une de ses plus belles invitations. Lorsqu'il dit, pardon, venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, je vous donnerai du repos. Et après il ajoute, prenez sur vous mon joug, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. À deux reprises, dans ce passage, le Seigneur parle de repos. Hein. Pardon. Et on pourrait penser que c'est une répétition. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une répétition. Ça nous parle de deux choses. Hein. Cette double promesse nous parle de deux choses. Ça nous parle du fait qu'au moment même où nous venons au Seigneur, au moment même où nous lui confions notre vie, où nous croyons, nous recevons le repos que produisent le pardon et la réconciliation. Ça, c'est une chose. Mais après, le Seigneur continue, le Seigneur dit, prenez mon joug, hein, recevez mes instructions, dit-il. Ça veut dire, mettez-vous à mon école, pliez-vous à ma discipline, soumettez-vous à ma volonté, que votre vie ne fasse plus qu'un avec ma vie. Et à ce moment-là, vous trouverez le repos pour vos âmes, voyez-vous ? Ça va plus loin. Ça va plus profond, ça, que le premier repos dont on parlait auparavant. Hein. Là, c'est un repos de paix pour, qui vient de quoi? Eh bien, qui vient d'une connaissance plus complète de Jésus, d'une union plus profonde et plus solide avec lui. Et le secret de ce repos parfait, eh bien, c'est de se livrer complètement à Jésus, frères et sœurs. C'est cela la chose, hein, de lui abandonner toute notre vie pour que lui seul la dirige, de nous laisser enseigner par lui, d'être et de faire ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, l'âme de l'homme peut être dans le repos parce qu'elle est en lui. Et c'est seulement en lui qu'elle pourra être dans ce plein repos. Amen. Et puis nous constatons maintenant, nous remarquons que trois fois dans ce passage, il est dit « ton Dieu » ou « ton Sauveur ». Pardon. Parce que si vous voulez que Jésus agisse pour vous, il faut qu'il devienne vraiment votre Dieu, ton Dieu personnel, pas un Dieu lointain, pas un sauveur en général, pas le sauveur des autres, hein, même si c'est aussi celui des autres, bien sûr, mais celui qui te sauve de tes péchés et de leurs conséquences. Celui qui te fait faire des expériences de bénédiction personnelle. Tu as entendu le témoignage d'autrui, il est temps qu'on entende parler de tes expériences avec Dieu. Il est temps qu'on entende ton témoignage, et pour cela, il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu le viennes vraiment de tout ton cœur. Il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu, que Jésus entre dans ta vie. Dans une réunion d'évangélisation en Chine, c'était au début du XXe siècle, voilà qu'un homme est entré, un homme bien vêtu, est entré dans une salle de mission qu'il y avait là. Il s'est assis un moment, il a écouté tranquillement, et puis il s'est levé, et tranquillement encore, il est parti. Et ça s'est reproduit le lendemain, et encore une fois, le surlendemain. Et puis là, à la fin du troisième jour, il s'est adressé au missionnaire et lui a dit « Je vous ai entendu parler trois fois ». Et trois fois, vous avez toujours utilisé le même texte. Pourquoi est-ce que vous n'en changez pas? Alors le missionnaire lui a dit, mais quel texte? Eh bien, il a dit, Jésus-Christ. Trois fois, vous avez parlé de Jésus-Christ. Et puis, le missionnaire n'a pas répondu tout de suite, il a réfléchi activement, puis il a dit, écoutez, monsieur, avant de vous répondre, est-ce que, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui au dîner comme plat principal? Un chinois, au début. À votre avis, c'était quoi? Et du riz, hein. C'est pas trop dur, hein. C'est pas des frites. Hein. Voilà. Et puis il lui a dit, bon, d'accord, et qu'est-ce que vous pensez manger dans le futur? Cet homme a répondu, bah, du riz, et voilà. Et quelle était votre nourriture les jours passés, hier? Bah, du riz, bien sûr. Puis il a dit, bah, le riz, ça me fortifie, hein. On ne peut pas vivre sans ça. Hein. Et puis il a hésité un moment, puis il a senti qu'il a dit quelque chose de fort, et il a dit, monsieur, mais le riz, c'est ma vie, hein, quelque part, hein, en tout cas de ce point de vue-là. Et le missionnaire a levé la main et lui a dit, c'est exactement ce que je voulais vous entendre dire. Ce que vous avez dit du riz, Jésus-Christ l'est pour notre âme. Jésus-Christ, c'est le riz de la vie, hein, qu'il lui a dit. Voilà, hein, pour que cet homme puisse comprendre la chose. Hein. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous parlons de Jésus. Hein. C'est la raison pour laquelle nous voulons que Jésus soit glorifié dans cette réunion et dans toute votre vie, parce que c'est en lui seul que se trouve la vraie vie, nulle part ailleurs. Seulement en lui qu'elle se trouve là. Et qu'est-ce que vous allez faire de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a été pour vous jusqu'à présent? Un jour, il y avait un grand morceau de quelque chose, on pensait que c'était une pierre, qui avait reposé pendant des siècles dans un torrent limpide en Caroline du Nord, c'est aux États-Unis. Voilà. Et les gens qui passaient par là, passaient à côté, parce que l'eau était claire, ils voyaient cette masse sombre, et ils pensaient que c'était une vulgaire pierre, et puis ils passaient sans y penser. Puis un pauvre homme, il passait par là, il a vu cette pierre, puis il avait besoin, voilà, il a besoin pour caler le portail de sa pauvre clôture, ben il a besoin de quelque chose de lourd, alors il a récupéré cette fameuse pierre, et puis il l'a emportée chez lui, et puis il l'a mise là. Et puis un géologue, un jour, est passé par là, il s'est arrêté à la pauvre porte du pauvre homme, puis il a été surpris par l'apparence de cette pierre, il a regardé de près, et voilà la plus grande pépite d'or qu'on ait trouvée à l'est des montagnes rocheuses, hein, qui a été découverte comme ça. La plus grosse pépite d'or à l'est des montagnes rocheuses. Hein. Donc, vous savez, beaucoup de gens regardent à Jésus. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient en Jésus? combien de gens? Ben Jésus, voilà, c'est un personnage de l'histoire. Ah ben Jésus, ça a été un grand sage. Jésus, ça a été un fondateur de religion. Allez, il y en a qui vont dire, Jésus, c'était le premier communiste. Il y en a qui disent ça, j'ai entendu ça, hein, dans ce discours-là. Voilà, donc, Jésus, oui, ben Jésus, voilà. Jésus, c'est un prophète. Jésus, ben bon, ils disent qu'il est fils de Dieu, mais bon, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, mais... Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand on découvre Jésus comme ça, quand on commence à réaliser ce que Jésus est, alors là, Jésus commence à nous être d'un véritable secours. Parce que toutes les choses que j'ai dites avant, ben Jésus n'est aucun secours pour ces gens-là. Même ceux qui disent que Jésus était un parfait modèle, s'ils en restent simplement au modèle, ben, ils ne pourront jamais arriver à suivre le modèle, il est trop parfait. Donc... Tandis que ceux qui viennent à Jésus, ceux qui se tournent vers lui, qui le prennent comme leur propre sauveur, hein, eh bien ceux-là font vraiment des expériences. Hein. Ils viennent pour être purifiés et puis ils vont s'apercevoir qu'il va le faire, qu'il va purifier leur cœur, leur vie. Ils vont s'apercevoir qu'il va les toucher, les sauver et puis qu'il va les secourir et les délivrer dans toutes les choses où ils ont besoin d'être délivrés. Amen. Quand vous regardez à Jésus, qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez la pépite d'or, enfin, hein, la plus grande et plus merveilleuse pépite d'or. Alléluia. Hein. Alors, c'est une nécessité absolue, absolue de venir à Jésus. On raconte qu'il y a eu un jockey, vous savez, ces gens qui montent les chevaux, qui s'occupent de chevaux. Un jockey qui a été, c'est un chrétien qui voulait l'amener à Christ. Et donc, il a eu l'occasion de l'amener à une réunion, comme nous avons ce soir, une réunion d'évangélisation, et le message avait pour thème le passage du Nouveau Testament où Jésus entre à Jérusalem monté sur un âne. Hein. Vous vous souvenez de ce passage, ceux qui connaissent un peu la Bible. Et puis, cet homme, il a il a vraiment écouté avec beaucoup d'attention. Alors, le chrétien était content, il s'est dit, oh là là, c'est impressionnant, il ne pensait pas qu'il écouterait avec autant d'attention. Mais vraiment, il a écouté avec beaucoup d'attention. Puis après la réunion, il a commenté ce récit, il a dit, oh mais Jésus, quel jockey il aurait fait. Parce que je sais ce qu'il montait ce jour-là, qu'il a dit. C'est un âne de Syrie, qu'il dit. Et il dit, j'ai eu à dresser une de ces bêtes, enfin, de ces bêtes-là, une fois. Et ils ne sont pas faciles à dresser. Et Jésus s'est assis sur un animal que personne n'avait jamais monté. Et en plus, tous les gens couraient autour, ils agitaient des branches de palmiers, et pourtant Jésus a réussi à le garder calme et à le garder soumis. Et il a dit, il s'est arrêté un moment, il a dit, s'il a pu faire ça avec un âne de cette sorte-là, eh bien, peut-être qu'il peut aussi faire quelque chose avec moi. Voilà. Hein, donc, la conclusion à laquelle il était arrivé. Et le Seigneur, il peut faire quelque chose avec moi, il peut faire quelque chose avec vous, frères et sœurs. Alléluia. Si simplement nous acceptons de lui donner notre vie et nous soumettre à lui. Dans Ésaïe 55, il est marqué encore, « Vous qui avez soif, venez aux eaux. Vous qui n'avez pas d'argent, venez, est-il dit. Hein » Et Jésus ajoute dans Jean 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine jaillissant en vie éternelle. Amen. Un quotidien du Caire, en Égypte, raconte un tragique fait divers. Quatre hommes sont partis en voiture pour visiter un site au bord de la mer Rouge. Et au retour, ils ont pris une mauvaise route et ils se sont enlisés dans les sables du désert. Ils avaient oublié de prendre une réserve d'eau et personne n'a soupçonné le drame. Et quelques jours plus tard seulement, on les a découverts morts de soif. Et ils étaient à 200 mètres d'un point d'eau. 200 mètres d'un point d'eau, ils ne le savaient pas. Hein. Être si près de la vie et passer à côté de la vie sans s'en rendre compte. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe, hein. Mais vous savez, c'est la tragique aventure de nombreuses personnes. Hein. Malheureusement, alors la question c'est ça, est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez soif d'idéal? Est-ce que vous avez soif d'harmonie? Est-ce que vous avez soif du vrai bonheur? Est-ce que vous savez où les chercher? Est-ce que vous savez où vous tourner? Est-ce que vous êtes comme perdu dans un grand désert à la recherche d'un point d'eau pour étancher votre soif? Ces quatre hommes égarés dont parle ce journal du Caire ont connu une terrible détresse alors que le salut était tout près d'eux. Ça lui était tout près d'eux. Et si vous avez soif d'amour, si vous avez soif de pardon, si vous avez soif de paix, de joie et de vérité, sachez que non loin de chacun de nous se trouve une source qui donne la vie véritable, une joie que personne ne peut enlever. Et cette source, elle a un nom, elle s'appelle Jésus-Christ. Et le chemin qui y mène, c'est l'Évangile. Voilà, hein, donc Jésus seul peut apaiser la soif de votre cœur et vous délivrer de la mort éternelle. Et Jésus n'est pas loin de chacun de nous. Et à chacun, il s'adresse, comme il est dit dans Deutéronome 4, verset 29, « Vous chercherez l'Éternel, votre Dieu, et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. » Béni soit son nom. Amen. Te remercions, Seigneur, et te bénissons, parce qu'encore ce soir, bien, tu es celui qui t'adresse à nous par ce puissant et merveilleux évangile. T'adresse à nos cœurs, t'adresse à nos consciences, t'adresse à notre pensée, t'adresse à notre réflexion, t'adresse à notre âme, Jésus. Et tu nous parles, et tu nous laisses entendre et comprendre combien il est précieux, indispensable, nécessaire pour chacun d'entre nous de venir à Jésus pour avoir la vie. Merci Sauveur, alléluia, béni sois-tu Seigneur.